le magazine des Nations Unies.
Bonjour, merci pour votre fidélité à votre émission, le magazine des Nations Unies, dont voici les grands titres de la semaine. Béni, dans l'est de la RDC, actuellement au cœur des priorités de la MONUSCO, la porte-parole de la mission l'a expliqué mercredi au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. Dans la même ligne droite, concernant l'épidémie du virus à Ebola qui sévit toujours dans l'est du pays, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi dernier à l'unanimité la résolution 2438. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité réclame notamment à toutes les parties aux conflits armés dans cette région de permettre la libre circulation du personnel humanitaire. Enfin, près de 80 000 enfants congolais expulsés d'Angola ont besoin d'une assistance humanitaire immédiate. C'est une alerte de l'UNICEF lancée également à partir de New York. Et dans les seuls territoires de Kamonia au Kasaï, près de 300 000 expulsés vivent dans les dénuements totaux. Oxfam et ses partenaires locaux se mobilisent. La conseillère en communication de cette ONG internationale nous en dira davantage dans notre décryptage. Le développement de tous ces titres, c'est dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. La situation de Béni se trouve au cœur des priorités de la MONUSCO. Florence Marshall, sa porte-parole, l'a souligné cette semaine. C'était au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. Cette préoccupation est double, sécuritaire, pour faire face aux perpétuelles attaques meurtrières contre les populations civiles, mais aussi sanitaire en rapport avec l'épidémie d'Ebola. Les propos de Florence Marshall ont été recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Béni est devenu, ces dernières semaines, la préoccupation majeure de la mission. La représentante spéciale a donné des instructions très claires, donc faisant de Béni la priorité de la MONUSCO, avec un double objectif, celui de contribuer à l'éradication rapide de l'épidémie d'Ebola et de soutenir les FARDC dans la neutralisation des groupes armés. La brigade d'intervention de la force a été renforcée par le déploiement de forces spéciales. Il est demandé aux troupes d'agir de façon proactive par l'intensification de patrouilles dans la ville de Béni et ses alentours immédiats et dans le cadre d'opérations conjointes avec les forces de sécurité congolaises. Les équipes civiles de la MONUSCO ont également été renforcées avec l'objectif de créer et de maintenir un dialogue permanent avec les autorités et les communautés.
Par ailleurs, sur le plan politique, au cours de la même conférence de presse, Florence Marshall a aussi annoncé que la représentante spéciale du secrétaire général a ouvert une série de rencontres individuellement avec le 21 candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain. Des rencontres qui entrent dans le cadre des bons offices de Mme Leila Zerougui visant à contribuer à l'instauration d'un climat de confiance parmi les parties prenantes au processus électoral. Une résolution sur Ebola, c'est la résolution 2438 votée à l'unanimité mardi dernier par le Conseil de sécurité. Suivez plutôt quelques détails de cette résolution avec Jérôme Bernard de la Radio des Nations Unies à New York.
Les membres du Conseil se disent profondément préoccupés par l'état global de la sécurité dans les zones touchées par l'épidémie d'Ebola qui compromet gravement, selon eux, l'intervention d'urgence et facilite la progression du virus en République démocratique du Congo. Les autorités congolaises ont déclaré une épidémie d'Ebola le 1er août dans la province du Nord Kivu. L'épidémie a également été constatée dans la province de l'Ituri, plus au nord. Entre le 4 mai et le 15 octobre 2018, 216 cas d'Ebola ont été signalés et au total 139 décès sont survenus. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité demande à tous les groupes armés, y compris les forces démocratiques alliées, de mettre immédiatement un terme aux hostilités. Il demande aussi à toutes les parties de permettre le libre passage, dans de bonnes conditions de sécurité et sans délai, de l'ensemble du personnel humanitaire et médical dans les zones touchées et de respecter et de protéger tous les civils et les travailleurs humanitaires et sanitaires. Le Conseil de sécurité souligne également dans sa résolution que les équipes d'action humanitaire, les hôpitaux et autres installations médicales qui apportent une assistance aux personnes qui sont dans le besoin doivent être respectées et protégées et ne doivent en aucun cas être pris pour cible.
Pressons à New York, où le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a parlé toujours cette semaine de près de 80 000 enfants expulsés d'Angola qui se trouvent dans une situation alarmante. Écoutez à ce sujet Christophe Boulirac de l'UNICEF au micro de nos confrères de la radio onusienne à New York.
La République démocratique du Congo fait face à un afflux important de Congolais en provenance d'Angola. Selon des sources officielles, depuis le 1er octobre, plus de 300 000 citoyens de la République démocratique du Congo seraient retournés d'Angola. UNICEF estime que parmi les retournés se trouvent plus de 80 000 enfants. Et ces enfants ont besoin d'une assistance humanitaire immédiate. Ils parcourent de longues distances à pied. Un collègue me disait qu'il a vu des enfants en grave état d'hypoglycémie. Ils sont exposés aux intempéries, à la faim, à l'insécurité. Il y a en effet des extorsions sur la route, des vols, ce qu'on appelle au Congo des tracasseries, notamment aux checkpoints. Ils sont aussi exposés au risque de violence et à un accès limité à l'eau, aux soins de santé et à l'éducation. Nous sommes très inquiets pour leur situation sanitaire et celle de leur famille.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Les expulsions des Congolais de l'Angola continuent. À ce jour, 257 000 personnes retournées sont enregistrées à Kamunia, dans la province du Kasaï. Selon une mission d'Oxfam qui s'est rendue sur place, ces retournés vivent dans les dénuements et ont besoin d'une assistance humanitaire. Oxfam, en collaboration avec quatre partenaires que sont AGID, CADEFA, Amor et Caritas, apporte une assistance en termes de protection, d'alimentation et en cash à ces populations. Madame Sheherazade Bouhabib, conseillère en communication et relations médias, revient sur les conditions de refoulement et d'accueil de ces retournés. Elle s'entretient avec Jean-Pierre Elali Koko.
Madame Sheherazade Bouhabib, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous rentrez d'une mission au Kasaï où vivent actuellement plus de 257 000 Congolais expulsés d'Angola. Quelle est, madame, la situation actuelle sur le terrain ?
Actuellement, au Kasaï, avec cette arrivée massive de Congolais expulsés de l'Angola, ce qu'on voit, c'est des personnes qui nous racontent les conditions d'extrême violence dans lesquelles ils ont été expulsés du pays, et puis les difficultés énormes qu'ils rencontrent dès qu'ils arrivent au Kasaï, puisque, comme vous savez, le Kasaï est une région qui connaît un taux énorme de malnutrition, où les structures ont été fragilisées depuis les conflits de 2016, et les tensions continuent d'exister aussi au sein de la région. Donc cet afflux massif de personnes pose plusieurs problématiques actuellement.
Parlez-nous un tout petit peu des conditions humanitaires dans lesquelles se trouvent ces expulsés de l'Angola.
Ce que les gens nous reportent, c'est que déjà, ils n'ont pas de quoi souvent payer le transport pour aller chez eux. Ils arrivent à la frontière, ensuite ils doivent aller dans les grandes villes, à Chicapa, à Kamunia. Pour ça, pour payer les transports, ils vendent beaucoup de leurs affaires. Ils ont de la difficulté à trouver de la nourriture, à trouver de l'eau à boire. Certains tombent malades et ne savent pas comment se soigner. Donc on les voit aussi porter avec eux sur des petits vélos quand ils ont la chance. Beaucoup d'affaires, c'est très dur, donc ils arrivent épuisés aussi dans des villes et recherchent de quoi pouvoir payer le transport pour la suite du trajet. Donc les conditions sont très difficiles et certains n'ont pas les moyens de rejoindre leur famille.
Dans son communiqué du 31 octobre, donc Oxfam déplore les conditions d'expulsion de ces personnes et interpelle le gouvernement angolais quant au droit des réfugiés. Pouvez-vous expliquer cela à nos auditeurs ?
En effet, donc plusieurs personnes que nous avons rencontrées reportent qu'ils ont été expulsés par la violence. On a détruit leurs affaires, volé leur maison. Certains parlent de viol, d'agression sexuelle. Un homme racontait la façon dont des forces gouvernementales sont arrivées chez lui, l'ont bloqué chez lui et ils ont abusé de sa fille. Donc des témoignages comme ça, nous en avons entendu beaucoup et nous déplorons que l'Angola utilise ces manières de faire pour expulser des personnes qui parfois ont des statuts de réfugiés et aussi ont le droit d'être sur le territoire avec des documents officiels pour certains d'entre eux.
Et vous craignez également la résurgence des conflits intercommunautaires au Kasaï avec l'afflux de ces personnes retournées d'Angola. Comment vous justifiez votre crainte ?
Comme vous savez, les conflits qui se sont passés en 2016, c'est très récent. Donc encore, la population est extrêmement vulnérable. On a plus de 2 millions de personnes qui sont atteintes de malnutrition. Donc c'est des personnes qui ont du mal à se nourrir chaque jour. J'ai rencontré des personnes qui accueillent plus de 30 expulsés chez eux, mais qui ont dans leur maison déjà des enfants mal nourris. Donc les difficultés sont énormes. C'est sûr que cette situation de pauvreté peut raviver des tensions qui existent encore. Il nous a été reporté que dans certaines zones, il existait déjà des tensions. Il y a aussi des communautés qui reviennent et cherchent à retrouver leurs terres. Et toutes ces raisons-là pourraient amener à une résurgence des conflits si on n'intervient pas rapidement pour soutenir les familles qui accueillent et les personnes qui viennent d'arriver dans le Kasaï.
Est-ce que vous avez eu l'impression que votre message au gouvernement angolais a été entendu?
Déjà, le chiffre dont on parle aujourd'hui de 300 000 personnes, en fait, dans la réalité, risque d'être plus grand, puisque la frontière entre l'Angola et la RDC est très longue, elle est plus de 2 000 km. Donc déjà, beaucoup de personnes ne sont pas dans ce chiffre-là, et aussi, d'autres expulsions vont arriver. C'est ce qui nous a été reporté aussi. Donc actuellement, les organisations humanitaires et de droits humains se mobilisent pour faire un plaidoyer auprès du gouvernement angolais, afin qu'ils puissent respecter les droits de ces personnes, leur dignité et leurs droits fondamentaux, qui est de partir dans la dignité et aussi de respecter ces personnes, quel que soit leur statut.
Face à cette nouvelle crise, à cette situation d'urgence humanitaire, quel est l'apport de Oxfam sur le terrain?
Donc Oxfam est présent déjà dans la région depuis les conflits de 2016. Ce qu'on fait aujourd'hui avec cette nouvelle crise, c'est qu'on adapte notre réponse. On identifie les ménages les plus vulnérables et nous faisons la distribution d'argent. Donc c'est à environ 75 $ par ménage, ce qui permettra de pouvoir payer pour la nourriture, l'eau, le transport éventuellement, en tout cas ce qui les aidera à pouvoir se réinsérer dans leur nouvelle ville en RDC et ce qui pourra peut-être aussi sauver quelques vies. Donc aujourd'hui Oxfam souhaite pouvoir rejoindre au moins 50 000 personnes avec cette distribution d'argent auprès des communautés et des ménages les plus vulnérables.
Oui, 75 $ par ménage, et comme vous l'avez dit, est-ce que vous avez pensé aussi aux familles d'accueil qui accueillent bien entendu plus de 30 personnes expulsées d'Angola?
Tout à fait, nous souhaitons poursuivre notre soutien à ces familles d'accueil. Déjà à travers nos programmes, nous en soutenons un certain nombre. Actuellement, nous n'avons pas les fonds nécessaires, mais nous recherchons les fonds pour pouvoir aussi soutenir plus de familles, notamment avec la distribution aussi de peut-être semences, aussi qu'on puisse encourager l'agriculture, et puis avec des travaux d'assainissement de l'eau qui sont aussi très importants à mettre en place dans la région.
Madame Sherazade Wahbib, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ouvrons cette page de nouvelles avec la situation de choléra en RDC. De janvier à mi-octobre 2018, le pays a déjà notifié 23 160 cas suspects, dont 798 décès. L'ampleur de l'épidémie est liée à l'augmentation des cas connus par le Tanganyika au début du mois d'octobre 2018. L'épidémie a atteint l'espace Kasaï au début du mois d'octobre 2017 par la province de la Lomami. Contrairement aux situations antérieures où la majorité des cas étaient rapportés dans les régions endémiques de l'est du pays, 24 provinces sur les 26 que compte le pays ont été touchées par l'épidémie. Retenons aussi la construction de 3 nouvelles écoles primaires dans les provinces du Nord Ubangi, Sud Ubangi et Bazuélé par le Haut Commissariat pour les Réfugiés, ACR. Elles sont ouvertes tantôt aux enfants réfugiés centrafricains qu'aux enfants congolais. Il s'agit pour le ACR d'encourager la coexistence pacifique en même temps que l'éducation. Le 15 octobre, la représentante régionale du ACR a inauguré l'une de ses écoles, celle de Libengué dans les Sud-Ubangi, qui accueille une majorité d'enfants congolais et quelques réfugiés. Enfin, sécurisation du processus électoral, la MONUSCO a déployé vendredi 26 octobre 41 des 140 éléments d'une unité de police constituée égyptienne à Bukavu en provenance de Lubumbashi. Leur mission, protéger les civils et les installations des Nations Unies pendant et après la période électorale.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien de Margaret Tchouma et les chefs adjointes de l'unité correction de la MONUSCO. Une interview accordée à Kananga au quartier central après sa visite de la prison centrale de cette ville du 16 au 17 octobre 2018. Margaret Tchouma est interrogée par Blaise Ndongala.
Madame Margaret Tchouma, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au terme de votre visite des 48 heures à Kananga. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre voyage de travail?
I am here.
Je suis ici. Mon nom est Margaret Tchouma. Je suis adjoint au directeur du département d'appui à la justice.
My purpose of coming to the prison.
Le but de mon arrivée, c'est pour appuyer le département d'appui à la justice. Question de fournir l'appui technique, d'évaluer nos travaux, notamment sur l'appui de la prison. Je voulais essayer également de fournir mon appui à la justice, à l'administration de la prison, pour voir comment nous pourrions poursuivre nos activités en vue de la protection des personnes en détention et faire des plaidoyers au niveau provincial, question d'impliquer toutes les autorités concernées dans l'appui.
Qu'est-ce que vous avez pu constater durant votre séjour à Kananga?
Currently, I can be able to appreciate.
À présent, je pourrais être en mesure d'apprécier l'appui que l'unité correction apporte à la prison ici.
Ceci pourrait être attesté
au travers que le chef de division de la justice ont personnellement apprécié nos activités. Néanmoins, sous la protection des civils, il y a beaucoup d'indicateurs qu'il faut pouvoir mettre en place. Ceci avec la MONUSCO et avec l'appui de l'autorité locale, parce que nous appuyons dans la limite de nos moyens et nous devons nous rassurer que notre plaidoyer va jusqu'à des niveaux très élevés. Par exemple, en appui médical, les conditions sanitaires des prisonniers sont très déplorables. Ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas d'équipement, ils manquent d'infrastructures appropriées pour le plan sanitaire. Une fois dans la prison, il est très difficile d'appréhender la situation des détenus. Ceci reviendrait normalement au service de la justice ainsi qu'au ministère de la Santé. Ils devraient travailler main dans la main pour rétablir les conditions sanitaires des détenus. L'autre point concerne la nutrition, la nourriture.
The director told me that
lors de notre visite, le directeur de la prison nous a informé que la prison a une capacité de 300 personnes et aujourd'hui, ils sont plus ou moins 800. Ainsi, la nourriture fournie n'est pas proportionnelle au nombre de détenus dans la prison. À ceci, il faut noter que la quantité de la nourriture est trop basse. Ainsi, les problèmes de nutrition demeurent dans la prison. Je voudrais aussi apprécier par ici l'appui du CICR qui fait du très bon travail en appuyant les cas de malnutrition retenus dans la prison. Ils fournissent aussi un appui médical. La MONUSCO, au travers le département correction ou appui à la justice, mène différents appuis, mais ceci n'est pas suffisant. Il devrait y avoir des kits médicaux fournis mensuellement et régulièrement à toute la population carcérale.
Vous partez déjà, quel est le message que vous laissez à tous ceux qui travaillent dans les secteurs de la justice au quartier central?
The message that I'm passing across is that first,
je voulais remercier les autorités provinciales de Kananga.
Lors
de ma visite précédente, j'ai fait la validation du plan de contingence qui est mis en place. Je continue à mener des plaidoyers afin que les polices dédiées à la prison sont opérationnelles. Ainsi, nous avons 80% des policiers spécialement
to make sure, even if they are rotated, the same group
ainsi,
is able to come,
bien
so that the training that we give to them is sustainable.
Cette formation que nous avons fournie à ces unités de police spécifiques porte des fruits et nous sommes prêts également à pouvoir améliorer leurs capacités. Je voudrais dire merci pour ce qu'ils font et leur appui. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de bonne volonté pour améliorer les conditions de détention à la
like to leave. Prisoners are human beings.
Le message que j'aimerais laisser à Kananga, c'est que les prisonniers sont des êtres humains. Ils ont des besoins comme toute autre personne.
Is to reform that person.
Le but de la prison est effectivement de reconstituer ces personnes détenues.
To have good security,
ainsi, on doit se rassurer qu'on a une bonne sécurité dans la prison, humaniser les détenus, et c'est une obligation. Nous devons être en mesure de prendre soin des prisonniers, les nourrir, leur donner des bonnes conditions de vie, afin qu'ils soient en mesure de corriger leur comportement, afin qu'ils soient également utiles, non seulement pour Kananga et toute la région de Kasai. Et si nous les abandonnons dans la prison, oubliez l'appui minimal à faire, qu'ils continuent à mourir. Qu'ils continuent à souffrir ou mourir de différentes manières. Nous établissons de l'insécurité dans la prison.
Radio Kapi vous remercie.
Merci beaucoup.
Un bâtiment pimpant neuf pour l'état-major de la police nationale congolaise à Kalemi, un ouvrage financé par la MONUSCO à hauteur de 50 000 dollars américains environ, et c'est dans le cadre des projets Impact Rapide et que le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika a réceptionné le mardi 30 octobre 2018. Un reportage signé Expedi Mambamoubi.
Le bâtiment de l'état-major de la PNC a une superficie de 252 mètres carrés. Il compte 7 bureaux, une salle de réunion, un salon, 3 toilettes et une véranda. Le tout pour un coût global de 49 950 dollars américains. Pour le chef d'état-major de la police de la MONUSCO, venu expressement de Kinshasa, la MONUSCO continuera d'appuyer la PNC. Général Daher l'a dit.
La construction de ce bâtiment traduit notre ferme volonté d'appuyer notre partenaire dans sa mission de protection des civils.
Madame Julia Wickham, chef de bureau intérimaire de la MONUSCO, dit quant à elle espérer un meilleur rendement de la PNC.
La PNC travaillera désormais dans un cadre adéquat qui lui permettra de mener à bien sa mission.
Tout en remerciant la MONUSCO, le commissaire provincial de la PNC demande au gouvernement provincial d'apporter également sa contribution. Général Jean Yave.
À son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous demandons complètement la construction de la clôture autour du bâtiment.
Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Une question sur la résurgence en RDC de plusieurs épidémies. Joseph Makamba de Ocha pour l'équipe pays et Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO, ont répondu. C'était, on le rappelle, au cours de la conférence de presse des Nations Unies de mercredi dernier. Suivez.
Bonjour, c'est Christiane Ekambo, journal des Nations.net. Ma question s'adresse à Monsieur Joseph. Vous avez parlé de la recrudescence du choléra, mais en même temps, est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur la poliomyélite qui a ressurgi dans 3 régions de la RDC? Est-ce qu'on ne voit pas qu'il y aura recrudescence encore de ces genres d'épidémies, d'autant plus que l'Initiative mondiale pour le financement avait déclaré il y a une semaine qu'elle mettait fin à son financement d'ici 2020.
Merci beaucoup. Je n'ai pas les chiffres pour la polio. Ce que je peux dire est que tant pour la polio que pour d'autres épidémies, parce que vous-même vous l'avez dit, il y a une situation qui est en train de devenir un peu alarmante pour la République démocratique du Congo. À côté de choléra, il y a Ebola qui s'est installé dans le Nord Kivu et l'Ituri. Il y a la rougeole qui est aussi en train de faire parler d'elle. Il y a la polio, comme vous dites. Donc c'est pour dire que la situation générale pour les épidémies est en train de devenir déplorable. Ce que nous pouvons dire est que nous ne souhaitons pas que les épidémies continuent à exploser à travers le pays. Au niveau de l'équipe humanitaire du pays, les actions sont en cours pour pouvoir déclencher les activités de réponse afin de pouvoir éradiquer les épidémies qui sont déjà là et prendre des précautions pour d'autres qui pourraient surgir dans les jours à venir.
Merci Joseph. Si je peux me permettre, dans la résolution qui a été votée hier
par le Conseil de sécurité sur Ebola, il y a un point qui rappelle l'importance de maintenir un appui, un engagement de la part de la communauté internationale pour renforcer le système de santé congolais, justement pour pouvoir empêcher toute dégradation de la situation, que ce soit pour Ebola ou d'autres crises.
La minute humanitaire.
Et voilà, c'est déjà l'heure de la minute humanitaire dans ce magazine des Nations Unies. Nous parlons aujourd'hui du principe de l'indépendance opérationnelle. Alors Honoré Missenga, une question. Si les organisations humanitaires doivent dépendre de l'accréditation de l'État pour agir et de l'argent des donateurs pour les moyens de leurs actions, peut-on dire qu'elles sont indépendantes ?
C'est cela même, Tina, la raison de leur indépendance. La caractéristique fondamentale de toute action humanitaire, c'est qu'elle doit être indépendante de toute visée politique, de tout intérêt économique et de tout objectif militaire ou autre dans les zones où elle est mise en œuvre.
Alors, comment cela se concrétise dans le travail des humanitaires au quotidien, Honoré ?
Les humanitaires interviennent de manière autonome et personne, ni le gouvernement, ni l'armée, ni aucun politicien ne devrait tenter d'intervenir pour détourner l'aide humanitaire pour servir d'autres priorités ou des communautés autres que celles auxquelles elle était prioritairement destinée. C'est là le sens, Tina, de l'indépendance.
Et pour terminer, pourquoi les organisations humanitaires tiennent-elles à leur indépendance opérationnelle ?
L'indépendance opérationnelle permet aux acteurs humanitaires de contrôler directement les distributions des biens aux populations qui souffrent, de garantir que cette aide est distribuée de manière impartiale et qu'elle parvient à ceux qui en ont le plus besoin.
Merci Honoré.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Moi c'est Kaki Akewa Kaki, je n'ai jamais eu des prénoms, c'est mon poste nom qui me sert des prénoms, Kaki. Et je suis marié et père de 4 enfants, dont 3 filles et 1 garçon. Je suis licencié en sciences de l'information et de la communication à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication depuis 2003. Je suis à la MONUSCO depuis 2008, d'abord Fondation Hirondelle et en 2011 j'ai signé pour MONUSCO. Bien sûr c'était pour la Radio Capi, producteur. Radio, c'est mon titre. En anglais, on appelle ça Radio Production Assistant. Comme synthèse de mon travail, les journalistes sont tout le temps partis pour ramener les informations à la rédaction, comme nous avons l'habitude de dire. Et nous, nous changeons de shift. Quelquefois, nous travaillons à 3h du matin pour terminer à 10h. C'est pas toujours évident pour se réveiller. Quelquefois, on change encore pour travailler les soirs. Et à midi, nous sommes encore là. Nous sommes là pour les services de la radio. Avant la MONUSCO, j'ai travaillé d'abord au journal L'Observateur et puis je suis allé à Raga FM, Raga Plus, bref, Raga et SPRL et j'ai traversé beaucoup de médias en tout cas. J'ai travaillé également à la Bibliothèque Nationale du Congo et avant de venir à la MONUSCO, je suis passé également à Antenne A. Je ne pense pas que j'ai vraiment les temps libres, d'autant plus que j'ai plusieurs tâches personnelles que je gère depuis plusieurs années et cela me fait que pour gérer mon temps, c'est quand même difficile pour moi-même. Je préfère bien la musique congolaise, surtout la rumba. Et du côté des sports, j'étais fan du football, mais maintenant j'ai dû abandonner. D'autant plus que je me dis qu'ils jouent au football et ils gagnent beaucoup d'argent. Et nous, faire passer encore le temps pour les regarder, ça m'intéresse plus du tout. Et comme nourriture, je ne suis pas très compliqué. J'aime bien manger les riz et les haricots, les foufous et les aigles, communément appelés ngaï ngaï, plus les mpiodi. Ça me va très bien. Après la MONUSCO, je compte avoir une grande ferme avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut, arbres fruitiers, bétail et autres. Ça m'intéresse beaucoup. Pour les auditeurs qui nous ont suivis depuis le début de cette émission, les auditeurs de Radio Capi qui ont l'habitude de nous suivre également et tous qui nous découvrent pour la première fois grâce à cette émission, j'ai dit merci et j'ai fait un petit coucou à eux et c'est très bien. À la prochaine.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Nous noter que le 6 novembre, c'est la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Le 7 novembre, c'est la journée internationale de l'écrivain africain. Le 8 novembre, c'est la journée mondiale de l'urbanisme. Et voilà, c'est la fin de notre magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Alain Goy, Honoré Missinga Kalala était à la réalisation, Jean-Pierre Lalicoco à la coordination, sous la supervision de Martin Sebujangwe. On se dit à bientôt sur Radio Kapi. Ciao.